Bonjour, Marco, compte à rebours. Compte à rebours, une émission de contes, d'histoires, de légendes, de courtes et de longues, toutes sortes de choses. Compte à rebours, c'est la 98e. Comment ça se fait que depuis tout ce temps, le compte à rebours est commencé et qu'on n'est toujours pas décollé? Mais c'est chaque fois le décollage. Et aujourd'hui, encore, on va partir très loin puisqu'on va aller voir le nuage et peut-être, si vous êtes sage, la lune. Et oui, encore le nuage et la lune. Qu'est-ce que c'est ça, le nuage et la lune? Eh bien, si vous avez écouté la semaine dernière, bien, c'est un livre, un petit recueil de contes. 64 contes et poèmes de sagesse qui ont été recueillis par Marc de Smet et qui sont publiés. Voilà, et là-dedans, j'ai pioché les choses de quoi nous abreuver de sagesse. Alors, faut attention avec la sagesse, parce que des fois, on a des espèces de haut le cœur d'indigestion. D'ailleurs, il en sera question dans cette émission. Mais en tout cas, j'espère que ça va nous inspirer. Et puis, le nuage et la lune, vous vous demandez peut-être d'où vient ce titre de ce recueil. Eh bien, tout simplement, Marc de Smet nous dit « Il m'a été suggéré, ce titre, par les vers de Li Po. » Eh oui, Li Po, le poète ermite chinois du 8e siècle. Allons, Li Po. Qu'est-ce qu'il disait, ce Li Po? Il disait « À l'éclat du couchant, je suis le fil de l'eau, en laissant jusqu'à lui s'envoler ma pensée. Je chante vainement la beauté de la lune au milieu des nuages. » La chanson terminée, les sapins la prolongent. Et Marc de Smet conclut en disant « C'est un hommage à cette nature que nous savons si bien détruire et qui nous enseigne pourtant la beauté de la création. » Voilà donc ce qu'est le nuage et la lune. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y en a parmi vous qui sont des adeptes de la contemplation de la lune au milieu des nuages. Hein, c'est quelque chose maintenant qui n'a plus cours, on ne le fait plus, on regarde des écrans. Oui, c'est vrai qu'il y a des choses très lumineuses sur des écrans, très aussi fascinantes, pour pas dire hypnotiques, et résultat, on ne les quitte plus. Mais pourtant, les jours de pleine lune, ou avant, ou un peu après, sortez, surtout s'il y a du vent et que les nuages passent devant la lune. Et là, eh bien, vous verrez, vous comprendrez. Vous comprendrez l'hypo. Eh bien, oui, eh bien on va y aller. Hein. J'ai des... Alors, les histoires que j'ai choisies dans ce recueil, c'est les 64 contes. Bon, il n'y en a pas 64, il y en a quelques-uns. Ce sont souvent des histoires courtes. Il y a même quelques poésies. On va repartir voir les samouraïs. Enfin, on va faire tout un voyage... pas mal en Orient, mais aussi par ici. Et d'ailleurs... tout de suite, tiens, hein, avant de commencer, il faut savoir aussi pourquoi on ouvre la bouche et si on peut l'ouvrir, parce que c'est une question fondamentale. Et pour ça, je vais commencer par un dicton égyptien qui nous enseigne ce qu'il faut faire avant de parler. Avant de parler, considère, premièrement, ce que tu dis, deuxièmement, pourquoi tu le dis, troisièmement, à qui tu le dis, quatrièmement, de qui tu le tiens, cinquièmement, ce qui résultera de tes paroles, sixièmement, quel profit en découlera, septièmement, qui écoutera ce que tu diras. Mets alors tes paroles sur le bout de ton doigt, et tourne-les de cette manière avant de les exprimer. Aucun mal ne résultera jamais de tes paroles. Du coup, j'ose plus rien dire. Hein. Et c'est vrai que lorsqu'on tourne 7 fois, parce que là, c'est concrètement ça, à tourner 7 fois sa langue dans sa bouche et s'interroger sur tout un tas de choses, oulala, on n'ose plus l'ouvrir, on aspire qu'à se taire. Mais heureusement, je vais vous donner un secret. Oui, j'en avais déjà donné 4 la semaine dernière, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, 4 secrets que j'avais trouvés dans cet ouvrage. Et là, j'en ai trouvé un dernier, un secret de maître Kodo Sawaki. Peut-être vous le connaissez, c'est un maître qui a quitté le Japon juste après-guerre, qui veut aller aux États-Unis, et c'est un des fondateurs du bouddhisme zen aux États-Unis, sur la côte ouest, autant que je me rappelle. Que dit maître Kodo Sawaki ? Il nous parle de ce secret, respirer. Notre expiration est celle de l'univers entier. Notre inspiration est celle de l'univers entier. À chaque instant, nous réalisons ainsi la grande œuvre illimitée. Avoir cet esprit-là, c'est faire disparaître tout malheur et engendrer le bonheur absolu. Poème de Tagore. Vous connaissez Tagore, c'est un grand, c'est même le plus célèbre poète indien. D'ailleurs, signalons aux auditeurs qui ont les oreilles attentives que le musicien que l'on entend en tapis, comme on dit, c'est encore le célèbre Subramaniam, le plus grand violoniste indien, décidément. Tagore, le fleuve de vie. Le même fleuve de vie qui court à travers mes veines nuit et jour, court à travers le monde et danse en pulsations rythmées. C'est cette même vie qui pousse à travers la poudre de la terre sa joie en innombrables brins d'herbe et éclate en fougueuses vagues de feuilles et de fleurs. C'est cette même vie que balance flux et reflux dans l'océan berceau de la naissance et de la mort. Je sens mes membres glorifiés au toucher de cette vie universelle, et je me réjouis, car le grand battement de la vie des âges, c'est dans mon sang qu'il danse en ce moment. Mais si ce fleuve de la vie chanté par Tagore n'était qu'une flaque d'urine. Une brève histoire soufie nous parle d'un moustique qui, voyant un fétu de paille flottant sur une flaque d'urine d'âne, lève la tête et se dit « Voilà longtemps que je rêve de l'océan et d'un vaisseau. Les voici devant moi. » Cette flaque de purin lui paraît profonde et sans limite, car son univers a la taille de ses yeux. De tels yeux ne voient que de tels océans. Soudain, le vent déplace légèrement le fétu de paille et notre moustique de s'exclamer « Quel grand capitaine je suis !» Et le conte termine en remarquant que lorsqu'on se considère comme quelqu'un d'important, on ressemble souvent à ce moustique. Et j'ajouterai que nous ressemblons aussi tous beaucoup à la grenouille de ce conte hindou. Il y avait une fois une grenouille qui vivait dans un puits. Elle y était née et elle y avait été élevée. C'était une toute petite grenouille. Or, un jour, une autre grenouille qui avait vécu au bord de la mer vint à tomber dans ce puits. L'habitante du puits interrogea la nouvelle venue. « D'où viens-tu ? » ?»«
Je viens de la mer. » »«
La mer ? Est-elle grande ?»«
Oh oui, elle est très grande. » »«
Serait-elle donc aussi grande que mon puits ?»«
Comment peux-tu, ma chère amie, comparer la mer avec ton puits ?»«
Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Il ne peut rien exister de plus grand que mon puits ! Cette gaillarde-là ment. Il faut l'expulser d'ici. »
Petit moustique sur une flaque de purin.
Petite grenouille dans un puits.
Logique que nous autres humains, si nous sommes ainsi, eh bien, logique que nous ayons quelques efforts à faire pour échapper à notre condition. Comme nous le rappelle, eh bien quoi, l'histoire de samouraï de cette semaine. Écoutez plutôt.
L'entraînement. C'est l'histoire du samouraï qui vint voir le légendaire maître Miyamoto Musashi et lui demanda de lui enseigner la véritable voie du sabre. Ce dernier accepta. Devenu son disciple, le samouraï passait son temps sur l'ordre du maître à porter et couper du bois, aller chercher de l'eau à la source lointaine. Et ce, tous les jours, durant un mois, deux mois, un an, deux ans, trois ans. Au bout de trois ans, il n'y tint plus et dit à son maître, « Mais quel entraînement me faites-vous subir là ? Je n'ai pas touché un sabre depuis mon arrivée ici. » Je passe mon temps à couper du bois à longueur de journée, à porter de l'eau. Quand m'initierez-vous ?
Bon, répondit le maître. Je vais vous apprendre la technique, puisque vous le désirez. Et pour la première fois, il le fit entrer dans le dojo. Et chaque jour, du matin au soir, il lui ordonnait de marcher sur le bord extrême du tatami et de faire ainsi, pas à pas, sans se tromper, le tour de la salle. Donc, le disciple marcha ainsi. Un an, le long du bord du tatami. Un an. Et au bout de ce temps, il dit au maître, « Je suis un samouraï. J'ai beaucoup pratiqué l'escrime et rencontré d'autres maîtres de kendo. Aucun ne m'a enseigné comme vous le faites. » « Apprenez-moi, enfin, s'il vous plaît, la vraie voie du sabre. »«
Bien, » dit le maître, « suis-moi. » Et il l'amena loin dans la montagne. Ils marchèrent longtemps. Ils grimpèrent très haut.
et ils finirent par arriver à un endroit où se trouvait une poutre de bois, assez petite, hein, qui traversait un ravin d'une profondeur inouïe, incroyable, terrifiante. Voilà, dit le maître, il vous faut traverser ce passage. Le samouraï disciple n'y comprenait plus rien, et face à la profondeur du précipice, hésitait, ne sachant pas que faire. Tout d'un coup, ils entendirent derrière eux toc, 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 le bruit d'un bâton d'aveugle. Ils se retournèrent et il y avait bien un aveugle qui, sans tenir compte de leur présence, passa à côté d'eux et traversa, sans hésitation, en tapotant de son bois la poutre qui franchissait le ravin. Alors le maître dit au samouraï à cet instant, « Pendant un an, tu as marché sur le bord extrême du tatami qui est plus étroit que ce tronc d'arbre. » Le samouraï traversa alors le pont d'un coup. Voilà, l'entraînement était complet. Celui du corps pendant 3 ans, celui de la concentration pendant 1 an, et celui de l'esprit face au ravin, face à la mort. Yoshiro Goto, musicien japonais, qui accompagnait cette histoire qui nous parle de ce samouraï qui veut apprendre la voie du sabre. Mais et pour ceux qui ne veulent pas manier le sabre, me direz-vous, qu'ont-ils à faire pour échapper à leurs conditions? Eh bien, c'est encore plus simple. Encore plus simple.
Moji, banana no tataki uri. Oh!
Une très célèbre histoire de Maître Joshu. Maître, s'il vous plaît, enseignez-moi le vrai sens du zen. Joshu lui répondit, as-tu terminé ton repas? Oui. Alors, va laver tes bols.
Vous aurez encore reconnu Moji Banana, un célèbre morceau qu'on a beaucoup utilisé ici sur cette antenne pour des histoires zen. Et d'ailleurs, vous y aviez eu droit avec Laver les bols. Il nous reste du temps pour une petite de Nasreddin. Ah ben tant mieux parce que je l'aime beaucoup celle-là. Nasreddin parcourt les rues de la ville habillé de noir des pieds à la tête. Tout le monde s'interroge. Mais de qui portes-tu le deuil? Nous n'avons pas entendu parler de décès dans la ville. Je porte le deuil de moi-même, car après ma mort, je ne pourrai plus en profiter.
Voilà, compte à rebours, terminé pour aujourd'hui, on a tout fait, les histoires, même les samouraïs, Nasreddin, c'est parfait. Et la semaine prochaine, il y aura des surprises très coquines, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais je vous invite à écouter encore et encore compte à rebours. C'était Marco, compte à rebours, à la semaine prochaine. Thank you.